Ok, merci. Ça y est, vous m'entendez? Voilà, donc en 20 minutes, je vais essayer de retrousser les manches parce que c'est un sujet très difficile. Vous savez, et c'est pas Joël qui va me démentir, j'habite la plus belle région et on habite la plus belle région de France, mais on a aussi, et ça vous ne serez pas surpris, quelques soucis dans le domaine agricole. Et je pourrais aborder la question, ou passer mes 20 minutes, ce serait de dire tout ce qui ne va pas. Et je préfère disséquer mon intervention en trois parties. D'abord, de façon assez carrée, de dire la réalité de ce qu'on vit. Mais il y a aussi en Bretagne des choses qui se font. Et à partir de ça, c'est vrai que c'était pas plus difficile lorsque j'avais un mandat de syndicaliste que maintenant en étant élu, mais j'ai fait le choix, effectivement, de dire à partir d'une situation donnée comment on peut essayer d'inverser la tendance. La tendance, pourquoi il faut l'inverser? Je rappelle quand même que la Bretagne, sur un peu plus de 6% du territoire national, on doit faire bon an mal an la moitié des productions animales en France. Et ce qu'on ne sait souvent pas aussi à l'extérieur de la région, c'est qu'on est la première région productrice de légumes plein champ. Ce qui veut dire que l'activité agricole, c'est 60 000 emplois. L'activité agroalimentaire, c'est 67 000 emplois. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a aussi un peu plus de 60 000 emplois dans le domaine du tourisme. Et vous savez effectivement que la Bretagne, de par son modèle agro-industriel, elle importe chaque année un peu plus de 2,5 millions, 2,6 millions tonnes de soja pour nourrir ses animaux. Et faites le compte, 2,6 millions tonnes de soja pour nourrir toute cette ferme régionale, on cultive ou on fait cultiver à l'extérieur de la Bretagne 1 130 000 hectares au Brésil, en Argentine, aux États-Unis ou ailleurs. Et à partir de ça, on a effectivement un système qui a marché, avec toutes ses limites sur le plan économique, mais qui arrive, j'ai dit, au bout du rouleau, et vous l'avez vu récemment avec les plus grands groupes qui ont fait le choix d'aller sur le marché mondial et qui aujourd'hui sont en grave difficulté, alors qu'on le savait. Et ce n'est pas qu'une entreprise. On a parlé de Douve, on pourrait reprendre de 10-15 années d'analyse qu'on a fait sur le dossier, et c'est absolument pas une surprise, c'est un système effectivement qui était complètement sous la perfusion des aides européennes. La Bretagne agricole, c'est 600 millions d'aides chaque année au niveau sur le premier pilier de la PAC. 10% des aides européennes étaient injectées dans une seule entreprise, Charles Doux, qui s'est délocalisé au Brésil. Donc je ne suis pas là pour faire le procès d'une entreprise, je suis là simplement pour dire ce qui était possible, eh bien ne sera plus possible demain. Et lorsque j'ai dit ça, c'est vrai que la ferme régionale, compte tenu des choix qui ont été faits à certains moments, la ferme régionale a extrêmement vieilli, de par sa population comme partout, mais elle a extrêmement vieilli. Vous savez que la moyenne d'âge des bâtiments agricoles en Bretagne, en agriculture, est de près de 30 ans et de plus de 20 ans en production porcine. Ça veut dire que une région qui a produit énormément a dégagé très très peu de valeur ajoutée. Et ces 10 dernières années, la région bretonne a oscillé entre la 15e et la 21e place des régions en termes de valeur ajoutée. Oui, ça veut dire qu'on a produit beaucoup. Et vous savez que le dernier contrat social qui a été fait état tout à l'heure, il date des années 60. Il y avait effectivement trois objectifs à l'époque qui étaient de nourrir la population, qui étaient de fournir des bras à l'industrie et, si possible, la parité de revenus avec les autres catégories sociales. Je ne m'éternise pas à ce niveau-là. 1960-2013, le contexte a changé. Nous avions, dans les années 60 en Bretagne, on avait à peu près, ou en France, pardon, 200 000 chômeurs. Regardez la situation de l'emploi actuellement. Donc ça veut dire que l'agriculture bretonne, qui comptait à peu près 200 000 exploitations agricoles en 1960, n'en compte plus que 37 000 actuellement. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse produire la même chose avec la moitié moins de paysans. Et ce qui se passe en Bretagne se passe dans d'autres régions, se passe dans d'autres pays du monde. Nous, en tant qu'élus écologistes, le mot n'est pas trop fort, nous n'accompagnerons pas ce que j'appellerais le génocide paysan. On peut produire la même chose, mais on peut continuer à vider les campagnes. Et si à un moment donné, les emplois perdus dans l'agriculture étaient compensés dans l'agroalimentaire, c'est plus le choix. Aujourd'hui, on n'est plus du tout. On perd entre 2 et 3 000 emplois chaque année dans l'agroalimentaire au niveau régional. Donc vous voyez, d'une situation que je vous décris qui n'est pas simple, je dirais jamais on n'a été dans une situation aussi favorable, soit pour continuer la fuite en avant, mais soit aussi pour changer, parce qu'au niveau régional, nous n'avons pas d'autre industrie que l'agroalimentaire, qui est le socle de base de la région. Région maritime, donc qui commerce sur le reste du monde. Et donc, effectivement, le moment est venu de se dire comment on fait. Mais comment on fait, ça veut dire que aborder la métamorphose du modèle agricole, ça ne se fera pas, en ce qui nous concerne, par des yakas faucons. La première chose, c'est qu'il faut le temps. La deuxième chose, c'est que pour le changer, il faut l'organiser dès maintenant. La troisième chose, il nous faut des moyens. Et les moyens, il faut qu'on en discute ensemble. Le changement, il ne peut pas être porté uniquement par des élus si on n'inscrit pas dans la démarche les différentes composantes de la société. Et ça, je crois qu'il faut être clair. Le modèle est en panne. Le modèle, on peut le changer. Mais à ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même qu'on a la situation de l'eau que vous connaissez, mais on a la situation aussi qu'on a 2,5 millions de mètres carrés de bâtiments qui ne servent plus et qu'il va falloir désamianter. Qui va payer le désamiantage des millions de mètres carrés qui sont aujourd'hui existants, qui ont été mis en place pour une durée de vie relativement courte et qu'il va falloir changer. Alors à partir de ça, il y a plusieurs atouts, plusieurs outils, plusieurs choses qu'on peut mettre en place. La première, ça a été évoqué tout à l'heure, la question foncière, on va pouvoir changer le modèle si effectivement on partage mieux le foncier. En tant que conseiller régional, je suis aussi l'un des vice-présidents de l'établissement public foncier régional, peut-être le seul en France qui a d'ailleurs une convention signée avec la SAFER. Et je crois que si la lutte contre l'artificialisation des sols est une réalité, rentre dans les têtes, la question du partage du foncier l'est beaucoup moins, de la même manière que l'est beaucoup moins aussi la question de la concurrence des usages. Et c'est pas parce qu'on a une diminution très forte des paysans, j'entends ce que disait tout à l'heure, je me souviens plus de ton prénom, mais par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent en fin d'activité, on a aussi en Bretagne comme ailleurs des exploitations qui arrivent à 1000 hectares et qui continuent à grandir. Et que, à la question qui se pose, on a d'autres objectifs qui sont d'utiliser les terres pour des productions non alimentaires. Un débat que je n'aurai pas le temps d'ouvrir aujourd'hui, c'est vrai que la question qui va se poser sur les questions énergétiques et en particulier via la méthanisation chez nous, il va falloir qu'on l'aborde. On peut effectivement utiliser des milliers d'hectares à produire de l'énergie. Alors sur cette question foncière, il y a la question du coût du foncier. La question du coût du foncier, même si en France et en Bretagne, on a plutôt des terres avec un niveau relativement bas par rapport aux autres pays, en particulier du nord de l'Europe, il faut savoir que lorsqu'on a des prix du foncier qui augmentent, ils ont augmenté considérablement ces trois dernières années, ça veut dire que plus le prix du foncier augmente, plus les pratiques agricoles deviennent intensives parce qu'il faut amortir le foncier. Et à ça, quand je vois en Bretagne, comme ailleurs, mais en Bretagne, je dois vous le dire, et si j'ai fait une parenthèse là-dessus, si on est la première région de production de légumes de plein champ, on est confronté, oui, chez nous, à une pression très forte des lobbies pour faire de l'irrigation en Bretagne. Donc, effectivement, quand on va rentrer dans ce type de logique, ça veut dire que la question de l'agroécologie et des pratiques telles qu'elles ont été définies toute la journée, eh bien, elles s'éloignent de nous. Donc, je dirais effectivement que deux choses sont en train de se télescoper. La première, c'est une demande sociale et sociétale. Ne sommes-nous pas arrivés au stade de réécrire un contrat avec la société? Moi, je suis aujourd'hui extrêmement déçu que sous la gauche au pouvoir, on ait un ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je m'attendais à un ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Ce n'est pas à l'agroalimentaire de participer à écrire la feuille de route. C'est à nous, en tant que politiques, de dire ce qu'on veut aujourd'hui comme type de l'agriculture et à l'agroalimentaire, effectivement, j'allais dire, d'appliquer ou de participer à appliquer la politique agricole. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans nos régions, peut-être plus qu'ailleurs, l'agroalimentaire pèse très lourd dans les décisions de politique agricole. Et j'ai entendu aussi, tout à l'heure, en disant, il y a 10 ans, on n'avait pas de produits bio dans les grandes surfaces, on en a aujourd'hui, et je vois de plus en plus de la bio-industrielle dont ça n'a pas été évoqué du tout de la journée, du tout, et je vois des grands groupes aujourd'hui qui sont en train de mettre en place des productions, j'allais dire, de bio-industrielles, voire des productions en volaille ou ailleurs extrêmement importantes à partir d'un approvisionnement extérieur. La question de la déconnexion des productions animales au sol, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à reconnecter et pas uniquement sous l'angle de la gestion des effluents. On doit être capable aujourd'hui de se poser la question de dire, à l'échelon d'un territoire, comment on peut agir pour arriver à inverser la tendance et en particulier l'élément crucial, la question des protéines. Donc en Bretagne comme ailleurs, c'est évident aujourd'hui qu'il y a énormément d'acteurs qui ont envie aujourd'hui qu'on change et qu'on pousse à une autre agriculture. Et ça ne peut se faire que si on a des politiques publiques fortes, cohérentes entre le niveau européen. Il y a effectivement un espace sur la question de ce qu'on appelle le soutien aux agricultures durables. Il y a la place aux politiques nationales avec des moyens. Et il y a aussi ce qui existe au niveau des régions et des départements. La région met chaque année 25 millions d'euros sur ce qu'on appelle sur le budget agricole. Tu me dis là, ce que j'ai encore comme temps. Mais c'est clair qu'avec 25 millions, on peut faire autre chose que de soutenir parfois des plus grandes exploitations pour ajouter un méthaniseur à 2 millions de litres de lait de quota. On peut effectivement soutenir des initiatives audacieuses, et lorsqu'il y en a, je les défends, je peux vous dire, autant comme la majorité, je les défends lorsqu'on va vers la relocalisation de l'agriculture, lorsqu'on va soutenir des circuits courts, lorsqu'on va soutenir des outils de transformation de produits, c'est évident, c'est notre rôle d'élu de le faire. Et donc, effectivement, on arrive au stade où il va falloir que le poids des alternatives dans le domaine agricole soit plus fort que le poids aujourd'hui de ceux qui portent la réindustrialisation des productions agricoles, comme je vous le disais, parce que la ferme régionale est en bout de souffle, et on peut faire les mêmes bêtises dans le domaine de la production laitière que ce qu'on a fait dans le domaine de la production porcine ou avicole. Et quand on met des étables laitières de 600 ou 800 ml de lait, on est en train d'orsoliser la production laitière parce que nous qui sommes paysans, on sait très bien qu'on ne va pas emmener un troupeau de 100 ou 150 vaches à 3 km de l'exploitation. Et avec L'automatisation de la traite, on sait qu'il faut des parcelles à 800 mètres autour du robot. Donc, vous voyez, ça veut dire que la technique n'est pas neutre. La technique doit être au service d'une politique. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de mettre tous les moyens pour accompagner cette transition. Et la loi d'avenir que parle aujourd'hui Stéphane Le Foll, si on n'est pas capable de mettre des choses nouvelles dedans, comme l'a été la loi d'orientation de 60 et les lois complémentaires de 62 avec des objectifs précis, mais la loi d'avenir ne pourra pas faire plaisir à tous les paysans, à l'ensemble des acteurs sur un territoire. Il y aura des choix à faire. Et le vrai débat qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer effectivement qu'on ne pourra pas faire croire qu'on peut défendre toutes les agricultures sur un territoire. Elles sont concurrentes, elles ne sont pas complémentaires. Et ça, c'est là aujourd'hui qu'il faut qu'on explique, point par point, que faire le choix d'aller vers l'agroécologie, vers les systèmes d'agriculture durable liés au sol et compagnie, il nous faudra du temps, il nous faudra des moyens. Et il y a aussi des décisions qui ne sont pas forcément qu'une question budgétaire. Le fait d'accompagner des jeunes à l'installation, le fait de donner un statut à des jeunes qui sont en phase d'installation, le fait d'aller vers, comme ça a été fait à un moment donné, d'accompagner tous les réseaux, les acteurs des réseaux qui ont monsieur de Scooter ce matin qui faisait état de ce qui s'est fait au niveau des CIVAM, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait pendant des années qu'il faut aujourd'hui utiliser. Et je dirais que sur cette question-là, la loi d'avenir aura du sens si le ministre de l'Agriculture est capable de dire on va rompre avec la cogestion de la politique agricole. Oui à la concertation, non à la cogestion de la politique agricole. La deuxième chose qu'il faut absolument qu'on prenne à bras le corps, c'est de dire, comme ça a été fait dans le cadre des conseils économiques et sociaux et environnementaux, les chambres d'agriculture ont des missions de service public ou de politique publique. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager, pendant que la gauche et les écologistes ont tous les manettes, de réformer en profondeur la composition des chambres d'agriculture pour porter en profondeur la réforme de la politique agricole. Et je terminerai juste sur un point. Et là, c'est une demande que je m'adresse à monsieur le sénateur Joël Labbé, cher Joël. Nous sommes dans une région, je n'ai pas eu le temps de le détailler, on a parlé de beaucoup des pesticides, beaucoup de plein de choses. Nous sommes dans une région où on utilise beaucoup d'antibiotiques dans l'élevage. Je n'aurai pas le temps de le détailler, mais sachez que plus la concentration est importante des élevages, plus la quantité de médicaments est importante. Je vous donnerai un seul chiffre. Entre les élevages de moins de 100 truies en production porcine et les élevages de plus de 250 truies, le différentiel par poste truie naissage engraissement est de l'ordre, c'est pas mes chiffres, ce sont ceux du centre de gestion, je peux leur faire confiance, 39 euros, vous multipliez par 600 000 truies en Bretagne, et vous verrez que ça doit faire quelque chose comme 21 millions de différence de consommation de produits vétérinaires par an. Le moment est venu pour mettre en place ce contrat de société, ce contrat avec la société dont on a besoin, qu'on ait véritablement une alimentation de qualité. Le moment est venu de confier, si possible, à nos sénateurs la possibilité de porter une mission parlementaire sur la question de l'utilisation des médicaments en élevage. Merci.